pied sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
Dans le langage courant, ça s'appelle disjoncter, partir en vrille ou plus familièrement péter les plombs, voire un câble. L'éruption de ces comportements étranges dans le quotidien prête parfois à rire ou à pleurer, mais dans l'ensemble, l'impression que donnent ces expressions est celle que ce sont des moments de folie passagers, des coups soudains, des parenthèses délirantes. Ces façons de parler ou de penser masquent en réalité des troubles psychiatriques répertoriés qui ne sont nullement amusants, ni étonnants ou tristes, mais des pathologies que l'on doit appréhender de manière informée. En France, la Haute Autorité de la Santé nous informe, par exemple, que 1% de la population souffre de troubles schizophréniques et 1% de troubles bipolaires. Nous vivons tous à des degrés divers, des périodes de bonheur, de tristesse, d'exaltation. Nous faisons tous face à un certain nombre de difficultés. Mais dans le cadre des troubles bipolaires, ces changements sont totalement hors de proportion. En plus, ils sont à l'origine de 3 à 5% des cas de violence commises sur autrui. Certains facteurs sont connus comme étant à risque, comme les antécédents de violences commises ou subies, notamment dans l'enfance, la précarisation, les difficultés d'insertion sociale, l'isolement ou encore l'abus ou la dépendance à l'alcool ou à d'autres substances psychoactives. Pourtant, ce qui est étonnant, d'après une autre étude commandée à Ipsos, c'est que un Français sur cinq n'est pas capable d'identifier correctement les problèmes de santé mentale. Et 71% des sondés se disent mal informés sur cette question. Aujourd'hui donc dans Les Pieds sur Terre, deux histoires qui pourraient sembler des aventures du quotidien ou plutôt des mésaventures en ville et à la campagne, une histoire avec une étudiante et une autre avec un avocat et un agriculteur, mais qui sont en réalité des cas d'école à considérer avec beaucoup de sérieux, comme on l'entend jusqu'à 14h dans Les Pieds sur Terre au micro de Valérie Borst.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Je m'appelle Mathilde, j'ai 22 ans. Je suis étudiante à la Sorbonne à Paris. J'étudie l'arabe. J'ai appris à lire toute seule quand j'avais 3 ans et demi, selon ma mère. Alors, est-ce qu'il faut croire ma mère? Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai appris à lire très jeune et j'ai sauté une classe ensuite. J'ai toujours adoré les mots et mon grand-père avait des manuels de langue en fait chez lui, des manuels d'italien, même de pashto en fait. Et donc petite, il me les montrait et ça m'a fascinée. Aujourd'hui, j'aimerais devenir traductrice en fait. L'année dernière, je menais plusieurs projets à la fois. Je travaillais dans une librairie. J'étais en même temps à la Sorbonne, en deuxième année. Je vais essayer de monter un court-métrage. C'est la première année où je vivais seule, en fait, loin de chez mes parents. On était 6 colocataires. J'étais amoureuse de l'un d'entre eux, en fait. Donc, ça rajoutait un petit peu à la pression. Et tous ces deadlines, en fait, ont commencé à s'accumuler. Du coup, j'ai commencé à vouloir dormir moins. Et un jour, je me suis retrouvée dans une pharmacie. À l'époque, j'avais pas beaucoup d'argent parce que je vivais en colocation, où mes parents me finançaient mes études. Et j'ai dépensé 200 euros en capsules de caféine, capsules d'excitant. Je voulais dormir moins, en fait, c'était mon but, pour pouvoir travailler plus. Mais le problème, c'est que j'ai utilisé ces comprimés à raison de 10 par jour au moins, ce qui est une dose vraiment énorme. Petit à petit, j'ai réussi à dormir moins, à me priver de sommeil. Donc je travaillais la nuit, j'écrivais la nuit, je partais à mon travail le jour, j'allais à la Sorbonne ensuite. Je dormais quand même, mais c'était complètement décousu en fait comme sommeil. C'était un rythme, je pouvais dormir la journée, je buvais énormément d'alcool aussi, en colocation en fait. On faisait beaucoup de soirées, on s'amusait beaucoup. Donc les choses ont commencé vraiment à devenir assez ingérables à cause du manque de sommeil. Et pourtant, j'avais l'impression d'être de plus en plus performante. Moins je dormais, plus j'arrivais à travailler, plus je sortais, plus je m'amusais, et je courais vraiment partout, mais littéralement, c'est-à-dire dans la rue, je me rappelle à Paris, piquer des sprints entre la mairie du 10e et la mairie du 11e par exemple, c'était vraiment sportif. Et petit à petit, j'ai commencé à avoir des bouffées de stress, et je me suis réveillée un matin, et là, les choses c'était complètement transformé. J'avais l'impression d'avoir une mission. Je suis sortie dans la rue et les journaux que je voyais semblaient s'adresser à moi. Il y avait des titres de menaces, je crois, sur un roi, peut-être le roi de Jordanie ou le roi de... Enfin, je ne me rappelle plus vraiment, mais j'ai eu l'impression que le journal me demandait en fait, de sauver cette personne. Et petit à petit, en continuant, j'étais dans le métro, j'avais l'impression d'être observée, j'avais l'impression que des gens me suivaient. C'était assez confus. J'arrivais à rattraper ces pensées en fait, moi-même et à les annihiler, en fait. Enfin, j'arrivais à les empêcher à ce moment-là. Et je me disais, mais non, c'est le manque de sommeil, ça va pas, tu paranoïes complètement. Mais en tout cas, les choses ont commencé à empirer vraiment. C'est-à-dire que j'arrivais plus à retenir ces pensées. Ces pensées devenaient complètement parasites et de plus en plus angoissantes. J'étais toujours dans une sorte de mission altruiste, il fallait que je sauve le monde. Et ça s'est transformé en mission de sauver ce colocataire dont j'étais amoureuse. Je pense parce que j'incorporais des détails du réel en fait. J'avais l'impression que mon entourage essayait de me faire passer des messages. C'est-à-dire qu'on avait l'anniversaire de ce colocataire, notamment. J'ai préparé un gâteau au chocolat. Enfin, c'est le seul plat que je savais faire à l'époque. Et il m'a parlé de sa meilleure amie, qui s'appelait Charlotte, en fait, à l'époque. Et je me suis renseignée. J'ai été chez un autre ami. Je lui ai dit que j'ai un problème d'Internet. Et j'ai traversé Paris. Cet ami m'a vu arriver, en fait, et chercher sur Internet « Famille princière de Monaco, Charlotte », plus Charlotte, en fait, sur Google. Je cherche ça et je me suis convaincue en fait que ce jeune homme appartenait à la famille de Monaco. C'était les frères de Charlotte, donc c'était le prince de Monaco. Bien sûr, j'avais aucune idée du nom du prince de Monaco. Sinon, j'aurais compris que c'était pas possible parce qu'il n'avait pas le même nom que vraiment. Mais je me suis dit que c'était un faux nom. Et donc, tout s'est un peu accéléré en milieu de semaine. J'avais l'impression que j'allais mourir à tout instant, que j'étais recherchée par des services secrets, que enfin, j'étais dans une terreur, mais une terreur vraiment absolument sans nom. Quoi. Et j'ai continué à aller dans la librairie, à travailler, à mener une vie complètement normale. Je me faisais un point d'honneur à ne rien dire à personne. Et dans le cadre de mon travail dans la librairie, je suis arrivée un matin et j'ai trouvé un vieux monsieur et j'ai cru qu'il venait pour me tuer. Mais du coup... Je me souviens être partie avec une règle que j'avais prise sur le bureau. Je m'étais dit que c'était une épée. Et en lui demandant 10 euros, j'ai quitté la librairie comme ça. Et je suis partie dans la rue en courant parce que à ce moment-là, j'étais tombée dans la librairie sur un livre sur un roi en danger. Et comme je pensais que mon colocataire était plus ou moins assimilé à une famille royale, je pensais que c'était lui qui était en danger. Donc tout s'est éclairci, entre guillemets, dans ma tête et je suis partie le sauver. Avec ma règle et mes 10 euros. J'ai sauté sur une moto et j'ai essayé de la démarrer. Mais évidemment, c'est moi qui suis tombée. Heureusement, c'est pas la moto qui est tombée, c'est moi qui suis tombée. Des passants étaient là, se sont retournés complètement interloqués. J'étais sûre de mon bon droit de voler une moto, en fait. Et donc, comme je pensais que mon téléphone était sur écoute, je l'ai bazardé dans une sandwicherie à Châtelet. Et puis, je me suis mis vraiment à paniquer. C'était une panique complètement intense. J'ai jamais paniqué comme ça, même pour un proche, même pour une vraie situation plus tard de danger, j'ai jamais ressenti autant de panique, c'est une peur bleue quoi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai aperçu un jeune homme, l'allure assez rassurante, dans le métro et je lui ai demandé de me raccompagner chez moi. Je lui ai dit que ça allait pas et que je courais un danger. Et ce jeune homme, en fait, a pris peur. En fait. Il est parti, il m'a tourné le dos. Et je suis montée dans le premier train, le premier RER, en direction de là où j'habitais. Et j'ai croisé une sorte de gangster adossé au mur qui fumait du shit. Et je lui ai dit exactement la même chose. Et ce dont je me souviens, c'est que lui a accepté de me raccompagner. Il s'est pas détourné comme le type en costard. Il a vraiment compris qu'il y avait un problème. Peut-être qu'il savait pas quel était le problème, mais en tout cas, il m'a prise par la main et il m'a dit « Ok, je te raccompagne ». Et il l'a fait. Et je suis rentrée ainsi dans cette colocation. Et l'appartement était vide. Et je me demandais s'il y avait pas des bombes dans l'appartement ou si j'allais pas exploser ou quelque part. Enfin, j'attendais la mort, en fait. Vraiment, vraiment, c'était une impression que la mort allait surgir, mais d'un instant à l'autre. Et... je me suis ruée dans la chambre, parce qu'on avait tous une chambre dans cette colocation, d'un autre de mes colocataires, et j'ai envoyé des signaux de détresse à partir de son Facebook. Au secours, ils vont m'attraper, sauvez-moi. Et ce colocataire est rentré à ce même moment. Donc il m'a vu dans sa chambre complètement paniqué, je devais être en larmes, je devais être même échevelé. Je me souviens qu'il a été assez réconfortant. Il m'a fait à manger un yaourt avec des fraises, en fait, qu'il a trouvé un peu comme ça. Et deux jours avant, c'est moi qui lui avais dit « Voilà le numéro de mes parents. Si quelque chose tourne mal, tu les appelles. » Et il a appelé mes parents. Il leur a dit qu'il y avait un problème avec moi. Il leur a dit de venir au plus vite. Donc, il m'a mise au lit. Et je me suis endormie. Parce que, bon, j'avais une semaine de nuit blanche derrière moi. Et j'ai entendu des bruits, des voix en bas. Et donc il y avait ce colocataire et mes parents. Et je me souviens leur avoir dit, mais vous ne comprenez pas, moi j'essaye de le sauver, c'est le prince de Monaco. Vous comprenez rien du tout. Enfin, et je me sentais tellement seule en fait à ce moment-là. Et donc là, mes parents m'ont attrapée par la peau du cou. Ils m'ont mise dans une voiture. Je pensais juste qu'ils m'emmenaient en secret quelque part, dans un endroit secret. Alors, où c'était, je me demandais si c'était pas dans une église pour que je me marie avec le prince de Monaco. Je n'avais aucune idée, mais je pensais que c'était quelque chose de grandiose, vraiment. Et ils m'ont emmené à l'hôpital, en fait. Je voulais pas y aller. Et je pense que c'est par amour pour mes parents, et surtout pour ma mère, qui était très inquiète, j'ai accepté de rencontrer un médecin. Et le médecin m'a vu, j'ai déballé tout ce qui s'était passé dans la semaine précédente, et je me suis retrouvée dans une chambre blanche, avec un matelas par terre. En fait, ce qu'on appelle à l'isolement, c'est-à-dire une porte fermée, sans contact d'entourage pendant une semaine, sans téléphone, sans rien, pour éviter absolument tout contact avec l'extérieur et toute pensée parasitante. Et je me suis retrouvée sous médication. On me donne deux choses, un haut de maillot et une sorte de caleçon. Et on est en fait enfermé dans cette chambre jusqu'à avoir fait probation qu'on n'est pas dangereux pour nous-mêmes ni pour les autres. En tout, je suis restée 2 semaines dans cette clinique jusqu'à ce que mon délire tombe. À ce moment-là, je sais vraiment pas quoi me dire. Enfin, j'ai conscience que j'ai fait des actions farfelues et je commence à me dire mais comment je vais rattraper tout ça ? La montagne des choses que j'ai faites pendant une petite semaine. Mais je ne peux plus retourner dans ma vie, en fait c'est fini. La porte d'entrée en fait, à ma vie rangée d'avant est définitivement fermée. Et effectivement, ça a été le cas quand je suis retournée dans le monde réel. Enfin, ça a été le cas parce que bon, mon colocataire baissait les yeux quand il me regardait. Ça a été le cas parce que les autres colocataires avec qui j'étais amie ne sont pas restés amis avec moi. C'était aussi plus largement la perte de mon job à la librairie. Parce que comment retourner vers un patron qui sait qu'on a péter les plombs. En fait, il m'a même pas viré, mais j'ai pas osé retourner vers lui. J'ai eu tellement honte, en fait, de ce que j'avais fait, de ce qu'il m'avait vu faire. J'ai eu tellement honte de cette semaine que j'ai pas osé revenir postuler dans ce travail. Mais les diagnostics prennent beaucoup de temps, en fait. Quand j'ai été diagnostiquée bipolaire, vraiment, ça a été un soulagement. Donc, je prends actuellement du lithium, en fait, qui m'empêche d'avoir ces crises. Au début, c'est pas évident de se dire qu'on doit prendre ces médicaments qui font tant d'effets secondaires. À vie, parce que le lithium, c'est à vie en fait, on n'a pas envie, ou en tout cas c'est pour une durée assez longue. Mon retour à la vie normale, ça a donc été assez difficile. Est-ce qu'on peut vraiment parler de normal ? On essaie de se reconstruire. Et en même temps, on voit bien que quelque chose a changé, donc il faut aller de l'avant et en même temps aller de l'avant différemment. J'avais vraiment des ambitions, même d'écriture, des ambitions artistiques, un peu. Et j'ai dû tout arrêter vraiment, ça a été du jour au lendemain. L'angoisse qui me reste aujourd'hui, c'est de faire une autre crise. Et c'est pour ça que je suis extrêmement sérieuse avec ce médicament, parce que je ne veux pas en faire. Mais on vit quand même avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et c'est ce qui est absolument terrible, c'est que notre vie est mise sans dessus-dessous pour une semaine, en fait. Parce qu'une semaine peut changer le cours d'une vie.
Culture, les pieds sur terre.
Je m'appelle Raphaël Sirouto, j'ai 48 ans. Je suis agriculteur depuis que j'ai 20 ans. J'ai repris l'exploitation de mon père. 270 hectares de champs et puis en tout, on fait 400 hectares. Quoi.
On visite ?
Eh bien, on visite. Ah, ça, c'est des taureaux à l'engraissement, ça. Quand ils auront l'âge, quand ils auront de 17 à 20 mois, ils vont partir à l'abattoir. Alors là, les trois cellules, là, il y a du blé dedans, des céréales, de la récolte 2015, qui n'ont pas été encore été vendues. On attend que les cours montent, mais bon, ça ne monte pas, il va falloir qu'on les vende quand même avant la prochaine récolte. C'est très très dur. Il y a 2-3 ans, on a vendu du blé jusqu'à 262 euros la tonne. Et j'en ai vendu 150 tonnes un petit peu hier à 140 euros.
Et parlez-moi un peu de votre situation familiale alors.
J'ai 3 enfants, j'ai une grande fille de 20 ans qui est en fac. Et puis un garçon de 12 ans et une fille de 10 ans. Je suis divorcé depuis le mois de juillet 2014. On a les enfants en garde alternée. J'avais demandé au départ de les avoir 3 semaines au mois d'août. Et puis mon ex-épouse m'avait envoyé une proposition de vacances. Elle m'a accordé que 15 jours. Donc mon avocat, un jour, m'a dit de pas accepter, puisque lui m'avait dit que j'étais dans le droit de visite. Et je comprenais plus, puisque je ne pouvais pas être en droit de visite au mois de juillet et au mois d'août. Je voulais simplement partir au moins 15 jours en vacances avec mes enfants.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Mon avocat, il m'a téléphoné aux alentours de 13h. Et il m'a dit, je viens chez vous. Bon, très étonné, il est arrivé à 16h. Il m'a demandé le couvert, donc je lui ai donné à 16h l'après-midi, qu'on lui serve à manger. Bon, qu'est-ce que vous voulez faire ? On lui a donné. Et puis, il racontait ses histoires de famille à propos de son épouse. Sans citer de nom, il parlait de ses affaires en cours. Et puis, lorsque j'y posais des questions sur la mienne d'affaires, où c'est qu'il voulait en venir ? Eh bien, laissez-moi faire, je suis bâtonnier. Bon, ben voilà quoi. Et au milieu de l'après-midi, ben, les gendarmes ont téléphoné. J'ai donné le téléphone à l'avocat, j'ai dit « débrouillez-vous, quoi. Moi, je sais plus quoi faire. » Il a insulté les gendarmes, il voulait que je m'unisse avec lui pour porter plainte contre les gendarmes. J'ai dit « non, mais ça va pas, là. Il y a un souci quand même. » Il hurlait. Et puis il m'a prévenu après ben, qu'il coucherait là. Il a fallu lui laver ses chaussettes, il était torse nu dans la maison, il se promenait en chemise. On habite dans un petit village, tout le monde se demandait qui c'était qui était là, quoi. Non, mais c'est vrai. Et en plus, j'avais du travail. Et puis moi, autour de minuit, je sais plus, je lui ai dit, j'en avais marre, je vais me coucher, quoi. Je pense qu'il a dû avoir très soif, puisqu'il a fait que de parler pendant des heures et des heures. Il n'y a que le moment où il a dormi qu'il n'a pas parlé. Hein. Ben, le lendemain, je me suis levé pour faire mon travail, et puis quand je suis arrivé, ben, il était... dans la maison, il a fallu lui faire son petit déjeuner comme il le voulait. Il avait des connexions qui n'allaient pas au bras. Il fallait qu'il plie des petites serviettes à côté. Il fallait une pomme. Il fallait. Il a mis un temps infini, quoi. Puis après, ben, il me tardait qu'il s'en aille. J'en avais marre, quoi.
Vous lui avez dit ?
Non, ben non, je lui ai pas dit parce que j'étais quand même dans une spirale où il fallait que je m'en sorte. De toutes les façons, il fallait m'en sortir. Je ne savais pas où c'est que j'allais aller, quoi. Et puis. Bon, il a passé quelques coups de téléphone, je pense, à des personnes de sa famille. Puis après, il m'a dit, ben, je vais partir. Ben, je lui ai dit, ben, je vais vous ramener à côté de Besançon. Il m'a dit, non, 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 vous ne me ramenez pas, vous me ramenez au bar à Montbeson. Le bar à Montbeson était fermé. Donc j'ai dit, le bar, je ne vais pas vous emmener au bar à Montbeson puisqu'il est fermé. Ben, emmenez-moi sur le pont, il y a un pont en bas, emmenez-moi sur le pont. Ah, j'ai dit, non, quand même, je ne vais pas vous emmener sur le pont, je vais vous ramener chez vous. Non, non, emmenez-moi sur le pont, arrêtez-moi là. Je l'arrêtais comme si c'était un clochard sur le pont à Montbeson. Et j'ai appris après que c'est sa femme, il a appelé son épouse qui est venue chercher dans la nuit.
Et le lendemain ?
J'ai été convoqué à la gendarmerie à 9h du matin. Donc lui m'avait dit de ne pas y aller. J'y suis quand même allé. On est convoqué à la gendarmerie, on y va quoi. Et puis il m'avait dit, vous direz aux gendarmes que vous êtes dans votre droit de visite, c'est tout, ne dites pas un mot. J'ai dit, bon, ben, je vais faire ce que vous me dites, quoi. Donc, j'avais quand même prévenu les gendarmes en leur disant que quand j'allais m'asseoir pour être auditionné, que ben, j'allais être un petit peu bête, quoi. Hein, j'ai excusé, moi, presque. Et puis, j'ai été auditionné, photo, et tout. Et puis, bon, ben, le procureur a été prévenu, et puis, bon, puis voilà. Donc, au bout d'un moment, j'ai été relâché. Enfin, relâché, ils ne m'ont pas mis en cellule, mais j'étais quand même en gendarmerie. Et puis, ben, j'ai dit, il faut que je trouve quand même Maître Elvas, parce qu'il m'a fait faire n'importe quoi. Il faut quand même que je le trouve. Je l'appelle, et il me dit, venez me retrouver sur tel parking à Besançon. J'y vais, il n'était pas là, je le rappelle. Il me dit, maintenant, vous passez ici, ici. Et j'arrive devant chez lui. Devant chez lui, j'ai été accueilli par ben, Maître Elvas et puis son épouse. Je voyais bien que son épouse était gênée, il y a quelque chose qui n'allait pas. Hein. Elle voyait bien que son époux était quand même pas trop normal, quoi. Puis il me parlait toujours de ses histoires, mais j'étais fatigué de tout ça. Puis au bout d'un moment, je me suis un peu énervé, je dis, mais qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? J'ai mes enfants, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il était sur son ordinateur, je sais pas ce qu'il faisait. J'attendais, j'ai trouvé le temps loin. Il a fallu que je donne ses petits cachets parce qu'il avait des problèmes, et puis tout. Je faisais le petit groom, quoi. Puis le lendemain, je crois que la gendarmerie m'a appelé. J'ai redonné les enfants, ce qui était normal, tout ça c'était normal. C'était ce qu'a fait Maître Éloi, ce qui n'était pas normal. Et puis là, je reçois un coup de téléphone sur mon portable. Monsieur Sirouto, venez vite, vous êtes mon ami. Il y a des gyrophares bleus autour de chez moi, il y a des hommes en blanc, ils veulent m'enfermer, je me retranche dans ma salle de bain. Et puis là, j'ai raccroché. Plein de personnes m'ont conseillé de va voir le bâtonnier. J'ai pris l'iPhone et puis cherché l'ordre des avocats. Et puis lorsque je l'ai rencontré, j'ai eu l'impression que j'avais une personne qui était ouverte. Il savait ce qui s'était passé avec Maître Elvas. Donc j'ai pensé que ça voulait se finir gentiment, qu'un jour il voulait me contacter et puis que ce soit le bâtonnier ou Maître Elvas pour me dire qu'il y a eu un problème. J'ai fait plusieurs courriers, ils n'ont pas donné suite. Donc j'avais pris un autre avocat, que Maître Elvas, ben pour essayer d'arranger ça à l'amiable, au moins qu'il reconnaisse ses fautes. Maintenant, pour lui, il n'a pas fait d'erreur. Vous ne pouvez pas le contrer. Il a toujours raison. Quand vous lui posez une question, quand vous lui dites que vous n'êtes pas d'accord, il s'énerve, vous n'avez pas confiance, je suis bâtonnier... C'est moi le meilleur, c'est moi le plus beau, quoi. S'il y avait déjà des fils qui se touchaient, je pense qu'il y en a d'autres qui se sont touchés, et puis voilà. Un petit homme bien énervé. I can't get these memories out of my mind. And some kind of madness has started to evolve. I tried so hard to let you go, but some kind of madness is swallowing me whole. Just madness keeping up.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre et Deux Cas d'École, un reportage de Valérie Borst réalisé par Perret Legras. Merci à Mathilde, à Estelle, à Chloé, à Raphaël Sirouteau, ainsi qu'à Christophe Gobin de l'Est Républicain. Sandrine Chapon, c'est attachée de production des Pieds sur Terre. Clément Comte, c'est notre stagiaire. Vos commentaires, partages et diverses interventions qui concernent notre travail, sollicitations, questions, témoignages. C'est sur notre site ou bien sur les fameux réseaux sociaux, page Facebook ou compte Twitter. madness.